Nous sommes dimanche 19 janvier 2025. C'est l'heure de votre émission humanitaire Faboudirène ou la solidarité en langue peul. Auditeurs et auditrices, merci d'avoir choisi les 85 radios partenaires de Studio Tamani pour vous informer. Voici alors la synthèse de votre émission d'aujourd'hui. Nous allons parler des jeunes déplacés internes qui sont à l'école de la résilience. Même si, pour certains, les activités menées ont été un échec, d'autres s'en sortent à merveille. Notre invité est Nuhum Maïga, secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. Avec lui, nous allons parler des formations que son organisation offre aux personnes déplacées internes. Notre proverbe du jour est « Ce n'est pas le bonheur qui attire le sourire, mais c'est le sourire qui attire le bonheur ». Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la présentation de cette émission humanitaire. Je suis Juliette Koulibaly. La partie technique est assurée par Seydou Ndao. Auditeurs et auditrices, rebonsoir et bienvenue à notre émission humanitaire Faboudirène. J'espère que vous avez passé un bon week-end et prêt pour relever les défis de la semaine. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous allons parler de l'insertion socio-professionnelle des jeunes déplacés internes sur les sites de déplacés. À travers le pays, ils sont nombreux, ces jeunes qui ont apporté dans leurs valises des expériences précieuses dans des domaines comme l'agriculture, l'élevage et autres. Et parmi eux, certains ont aussi bénéficié des formations et participent à des programmes de renforcement de capacités. Et ces initiatives venant de l'État et de ses partenaires visent à outiller ces jeunes pour leur autonomie financière et faciliter leur intégration sociale. Dans ce magazine, certains n'hésitent pas du tout à pointer du doigt les insuffisances que révèlent ces accompagnements. Écoutons ce magazine réalisé par Issa Oumar Togola avec le concours de nos correspondants.
Au milieu des tentes de fortune qui engloutissent sa petite entreprise située sur le site des déplacés de Faladjé à Bamako, Nouam Kone observe avec nostalgie ce qui reste de son projet d'élevage des bœufs. Ce trentenaire est venu de Bankas avec une expérience déjà avérée dans ce domaine, une chose sur laquelle il ne manque pas d'attirer l'attention de ses visiteurs.
On peut mettre 25 bœufs dans cette partie et 25 dans l'autre. Cela facilite un peu le travail.
Habillé en jeans noirs, t-shirt blanc avec un air de désespoir, Nouam fait partie d'un groupe de jeunes qui a bénéficié des formations venant d'ONG comme Inda Mali et la Croix-Rouge. Ces programmes mis en œuvre sous la supervision de la Direction régionale du développement social de Bamako a permis à ces jeunes d'acquérir des compétences et obtenir quelques équipements de travail. Mais malheureusement pour certains jeunes comme Nouam, ce projet d'accompagnement n'ira jamais jusqu'au bout.
On nous a appris à faire plusieurs types d'élevage, y compris l'embauche bovine. On a eu des diplômes. Nous étions au nombre de 7 personnes. Ils ont donné un bœuf pour 2 personnes. Ce n'était pas suffisant. C'était difficile de nourrir ces bœufs. Nous devions cotiser pour le faire. Mais on n'avait toujours pas l'argent pour cela. Aujourd'hui, tout s'est arrêté.
Cette réalité n'est pas propre à Bamako. Dans la région de Bayangara, au centre du pays, certains jeunes disent avoir bénéficié d'un programme similaire et d'un accompagnement adéquat. Tandis que pour d'autres, leurs besoins essentiels ont tout simplement été ignorés.
On nous a aidés avec beaucoup d'équipements. Certains ont eu des moulins, d'autres arrivent à fabriquer des savons et les vendre. Moi-même, j'ai conduit un tricycle qui m'a été offert. Un projet nous a soutenus financièrement avec une somme de 250 000 francs CFA.
Je n'ai jamais bénéficié d'une formation. Je fais tout seul. Quand ils viennent, c'est pour nous donner des petites sommes et s'en aller. Ce dont on a besoin, c'est du travail.
Pourtant, ces propos contrastent avec ce que nous apprennent certains jeunes déplacés vivant à Ségou. Sur le site de Ségou, par exemple, nous avons rencontré 2 jeunes qui nous témoignent de leur satisfaction vis-à-vis de l'accompagnement qu'ils ont reçu.
J'ai bénéficié d'une formation à Ségou. Nous avons été formés en électricité et en installation des panneaux. Après la formation, on a reçu des diplômes et des kits. En plus de cela, ils nous ont donné une somme d'argent.
On nous a bien formés et tout s'est bien passé. Nous avons eu à faire des stages auprès des personnes très qualifiées. J'ai fait mon stage à Fana et c'est nous qui avons installé les panneaux du commissariat de la police de Fana.
Ségou n'abrite pas le seul site à connaître des cas de réussite. Dans la région de Gao, également au nord du pays, Ibrahim Maïga, un jeune déplacé venu de Talatay, est en train de changer l'habituel regard que certains avaient des déplacés. Après avoir passé quelques temps à exercer son ancien métier qu'est la vente des pièces détachées, le jeune Maïga a participé à des programmes qui ont fait de lui aujourd'hui un véritable chef d'entreprise.
En tant que personne déplacée, j'ai bénéficié de 6 mois de formation en électricité, menuiserie et à la réparation des engins. Après la formation, ils m'ont donné des outils pour que je puisse travailler à mon propre compte. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que j'ai 2 autres personnes qui travaillent avec moi.
Restons au nord en mettant le cap sur Menaka. Le directeur régional du développement social et de l'économie solidaire rapporte qu'environ 386 jeunes déplacés ont bénéficié des programmes d'accompagnement. Malgré que ces chiffres soient encourageants, Ahamadou Hachimi Diko reconnaît que les résultats sont loin d'être satisfaisants au regard des énormes besoins.
Les jeunes déplacés ont réussi plusieurs renforcements de capacités qui sont entre autres la formation en AGR, activité génératrice de revenus. L'insuffisance de matériel d'accompagnement a toujours été soulignée par les jeunes. Certains sont formés sans être soutenus par le programme. C'est ce qui est vraiment un problème majeur.
Multiplier les programmes de formation, mobiliser plus des ressources financières pour ces jeunes et solliciter l'appui des partenaires techniques et financiers, voici quelques solutions que le directeur régional du développement social et de l'économie solidaire de Menaka préconise pour répondre à cette crise. Du côté des jeunes, beaucoup insistent sur la nécessité de proroger le suivi des programmes, mais aussi qu'on leur donne la chance de travailler dans d'autres entreprises de référence pour approfondir leur métier et se créer un réseau.
Merci Issa Togola. Ce magazine faisait focus sur comment les jeunes déplacés comptabilisent leurs expériences pour assurer leur autonomisation avec leurs expériences comme l'agriculture, l'élevage, le maraîchage, entre autres. Mais toutefois, ils révèlent une insuffisance quant à l'accompagnement après des formations de réinsertion professionnelle. Maintenant, nous allons faire place à notre invité, Nuhum Maïga, secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. Dans cette première partie de son intervention, il explique comment les organismes humanitaires procèdent pour appuyer les PDI, comprenez par là les personnes déplacées internes dans les activités leur permettant d'être autonomes. Écoutons ensemble cette première partie.
Le Mali est confronté à une situation de conflit, d'insécurité, qui a mis sur les routes du déplacement en plusieurs milliers de personnes. À l'interne comme en dehors du Mali. Mais puisqu'aujourd'hui on parle des déplacés internes, nous devons dire que en ce qui concerne les organisations humanitaires et particulièrement la Croix-Rouge du Mali, depuis 2012, nous nous sommes attelés à donner de l'assistance à ces personnes déplacées internes. Mais puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un conflit prolongé où les déplacés internes, la plupart des déplacés internes, restent là où ils ont été déplacés ou ne sont pas retournés dans les lieux d'habitation traditionnels. Nous, notre approche consiste effectivement à leur donner l'assistance d'urgence pour faire face aux besoins immédiats, mais aussi à faire en sorte que ces personnes-là qui ont perdu leurs moyens de vie et leurs moyens d'existence puissent reconstituer ces moyens de vie et ces moyens d'existence pour avoir un semblant de vie normal. Parce que l'assistance d'urgence ne peut pas continuer. La plupart sont aujourd'hui depuis plus de 10 ans dans les mêmes endroits où ils ont été déplacés et on ne peut pas continuer tous les jours à leur donner des handouts. Donc aujourd'hui, notre approche en tant que Croix-Rouge, chaque programme que nous développons pour assister dans l'urgence, à ce programme-là, nous lions aussi une opération de relèvement de ces populations.
Alors, comment se fait cette opération de relèvement?
Là, pour déterminer, il y a la plupart, ce soit des agriculteurs, il y a des éleveurs, il y a des commerçants. Et donc, en fonction de leur corps de métier, on essaie de les aider à reconstituer leurs moyens de vie. Donc, il y a des activités génératrices de revenus qui sont mis à leur disposition, soit à travers du cash ou bien à travers des intrants que nous mettons à leur disposition pour faire en sorte que eux-mêmes à long terme pouvoir subvenir à leurs besoins sans avoir à recourir tout le temps à la main tendue aux organisations humanitaires ou même à l'État.
Est-ce que ces initiatives d'autonomisation sont-elles adaptées au contexte géographique ou culturel de ces déplacés-là?
Bon, en ce qui nous concerne, nous estimons que c'est adapté parce que, comme je vous l'ai dit, ces actions que nous menons à leur endroit pour leur permettre de reconstituer leurs moyens d'existence se font sur la base d'évaluation pour savoir quelles sont leurs préférences d'action, quelles sont leurs préférences d'activités à mener. Et donc, nous pensons que c'est des activités qui conviennent. Mais ce qui est important aussi à savoir en ce qui concerne la Croix-Rouge malienne, c'est qu'en proposant ces activités, nous proposons aussi des activités aux populations hôtes. Parce que la plupart des déplacés viennent aussi s'installer auprès de ces populations qui sont déjà sur. Alors donc, en les donnant les moyens de reconstituer leur vie, on donne aussi des moyens à ces populations hôtes, dont aussi la vie a été impacté par ces déplacements, mais aussi par le conflit, pouvoir effectivement subvenir de façon durable à leurs conditions de vie.
Merci Nuhum Maïga. Je vous rappelle qu'il est le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. On aura compris que pour appuyer les déplacés dans les activités génératrices de revenus, les activités, les formations et tout accompagnement venant des organismes humanitaires sont choisis en fonction de leurs préférences et l'étude du terrain en amont. Parlant toujours d'autonomisation, nous allons à Bankassa à la découverte d'un modèle de réussite, Oumar Daou. C'est de lui bien sûr qu'il s'agit. Il est bijoutier et déplacé internat à Bankassa au centre du pays. Après plusieurs années passées auprès de son père à Djalassakou, le quinquagénaire vole aujourd'hui de ses propres ailes dans la bijouterie. Il réalise des œuvres en argent indescriptibles. Depuis 2019, Oumar et sa famille vivent à Bankassa. Cette activité économique lui réussit bien. Il emploie dans son atelier une dizaine de jeunes à la découverte de ce déplacé interne qui constitue un modèle de réussite aujourd'hui. Un reportage de Moussa Malé Sissoko avec le concours de notre correspondant à Bankassa, Adama Dele Togo.
Ces coups de marteau que vous entendez proviennent de l'atelier de bijouterie de Oumar. L'artisan bijoutier et ses employés sont à l'œuvre. Ici, ils font fondre l'argent avant de commencer un travail qui peut prendre des heures en fonction du bijou commandé. Oumar Daou exerce ce travail depuis près de 40 ans.
J'ai hérité ce travail de mon père qui, à son tour, l'a appris de son grand-père. À cause de l'insécurité, ma famille et moi avons quitté le village de Djalassagou pour la ville de Bankassa. J'ai 3 épouses et 18 enfants. Les prix de mes produits varient entre 15 000 à 1 500 000 francs. Les commandes viennent également de l'extérieur, notamment au Cameroun et en Guinée équatoriale. J'emploie actuellement une dizaine d'agents qui sont qualifiés et sont tous mariés aujourd'hui.
Cependant, notre bijoutier évoque comme difficulté la cherté des outils de fabrication des bijoux et l'insécurité qui sévit dans la région. Oumar désire avoir des équipements de travail.
L'activité ne marche plus comme auparavant. Les matières premières sont de plus en plus chères. Beaucoup se sont lancés également dans le secteur. Certains clients ne payent pas la totalité de leurs commandes. Nous avons besoin d'équipements sophistiqués pour améliorer notre travail. Sinon, le déplacement dû à la crise sécuritaire nous a beaucoup impacté financièrement.
Il séduit les visiteurs et les clients pour sa bonne humeur, mais aussi et surtout par ses créations. Ses clientes ne tarissent pas d'éloges sur les œuvres du bijoutier. Elles témoignent.
Je suis venue récupérer une commande chez Oumar. Cela fait 6 ans maintenant que je sollicite ses services. Grâce à la qualité de ses œuvres, je lui ai amené beaucoup de clients. Ces bijoux sont de qualité. Des commandes proviennent même d'Abidjan.
Oumar Daou, tout comme de nombreux autres déplacés internes, mène des activités économiques pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, ils aspirent au retour de la paix et la stabilité au Mali.
Effectivement, comme Oumar Daou, ils sont nombreux les personnes déplacées internes PDI qui sont des modèles de réussite qui ont eu à se hisser dans les camps de déplacés et certains même qui ont pu quitter les camps de déplacés grâce à leurs activités génératrices de revenus. Place maintenant à la deuxième partie de l'entretien avec notre invité, le secrétaire général de la Croix-Rouge. Il apporte maintenant des solutions pour que les PDI soient encore moins dépendants de l'assistance sociale.
Au niveau de Bamako, les déplacés de Bamako, que nous appuyons sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Vous prenez l'eau, l'hygiène, assainissement, il y a des comités d'eau, hygiène, assainissement au sein même des populations déplacées qui sont formés sur comment est-ce qu'il faut faire la gestion des points d'eau. De formation et de renforcement des capacités qui est faite pour maximiser effectivement le rendement des activités génératrices de revenus qui sont effectivement octroyées au niveau de ces bénéficiaires.
Est-ce que ces formations et ces initiatives ont produit des résultats concrets?
Non, mais bien sûr, parce que chez nous, il y a toujours un suivi qui est fait. Parce que nous n'allons pas juste donner les moyens et les outils aux bénéficiaires et les abandonner. Non, nous les suivons au quotidien parce que nous sommes une organisation à base communautaire. Et dans ces sites, nous avons aussi des volontaires qui sont issus même souvent de ces groupes de déplacés. Donc après chaque opération, chaque action, nous faisons une évaluation pour voir quel a été l'impact de notre assistance. Est-ce que cette assistance a donné les résultats que nous souhaitons? Est-ce que les populations ont apprécié cette assistance-là? Qu'est-ce que les populations n'ont pas apprécié? Qu'est-ce qu'il faut revoir? Qu'est-ce qu'il faut changer? Et qu'est-ce qu'il faut améliorer? Nous n'avons pas pour le moment eu une opération d'assistance ou d'appui aux bénéficiaires où nous avons eu des résultats où des gens n'ont pas adhéré entièrement à notre approche.
Il y a des déplacés qui ont reçu des formations en saponification, maraîchage, mais qui toujours attendent de l'assistance sociale. Comment changer cela?
Comme vous savez que c'est la nature humaine qu'on a souvent, mais on demande toujours. C'est naturel que les gens puissent toujours demander davantage, même s'ils reçoivent. Et aussi, il y a la mentalité aussi qu'il faut changer, sur laquelle il faut travailler au niveau de... Parce que les gens pensent que les organisations humanitaires ont des ressources infinies. Ils peuvent toujours continuer à nous donner de l'assistance. Alors que nous, notre objectif, effectivement, c'est de les faire sortir de cette situation de dépendance. Et c'est pourquoi nous les aidons, effectivement, à eux-mêmes à reconstituer leurs moyens de vie. Partout où vous passez, les déplacés, les bénéficiaires vont vous dire merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Voilà l'impact que ça a fait. Mais est-ce que vous pouvez nous donner davantage? Alors donc, je crois que ça relève de vraiment la nature même des gens. Ils veulent toujours avoir davantage.
Quelle est la part aussi des organismes qui évoluent dans le domaine de l'humanitaire?
Avec un peu l'afflux des organisations humanitaires sur certains sites, par exemple les sites de Bamako, il faut travailler aussi sur la mentalité des bénéficiaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec beaucoup de choses et souvent, c'est sûr que si il n'y a pas de bonne coordination entre les organisations humanitaires, la répartition équitable des dons et des assistances va se faire en sorte que on va faire plus de mal que de faire du bien. Parce que si je viens, je donne 10 kits dans une famille, une autre organisation vient et donne les mêmes kits, il va de soi que cette famille-là vende le kit extra pour faire peut-être face à d'autres choses. Donc c'est pourquoi il est important qu'il y ait une très bonne coordination entre les organisations humanitaires pour que, un, on ne se marche pas sur les pieds, mais aussi pour que l'aide que nous procurons à ces populations déplacées soit faite de façon efficace et efficiente et ne puisse pas causer du tort, de faire du mal, alors que ça devait plutôt contribuer à améliorer les conditions de vie.
C'était là la deuxième partie de notre entretien avec Nuhum Maïga, secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. Comme le dit un adage, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Mais pour ce faire, M. Maïga aussi a invité les organismes œuvrant dans l'assistance sociale à mieux coordonner les approches pour le bonheur des PDI. Eh oui, vous l'aurez compris, c'est notre rubrique artiste de la semaine. Et ce dimanche, nous allons parler du festival Spot on Mali. La maison des jeunes de Bamako a vibré sur les rythmes de la 11e édition du festival Spot on Mali Musique du 10 au 11 janvier 2025. Devant un public émerveillé, des artistes maliens ont démontré leur savoir-faire sur la scène et selon le promoteur de l'événement, ce rendez-vous vise à promouvoir les artistes et les musiciens sur la scène nationale et internationale. La rubrique artistes invités d'aujourd'hui nous plonge dans les mouvances du festival et c'est avec Fatoumata Kodjo.
L'ambiance festive comble le public. C'est le show devant la scène. Des danses et des cris de joie résonnent partout. Le public s'est dit satisfait et emballé par les différentes prestations des artistes invités.
Le show, il est très bien. On est là depuis le début et ça se passe très bien. Dieu merci.
C'est super, super génial. On s'est bien amusé, on s'est bien défoulé avec les stress de la semaine. Vraiment, c'était l'occasion idéale de se défouler. Il y avait tellement d'artistes talentueux.
Donc, venir faire un dernier show les soirs du festival, rien de mieux que ça, quoi. Je trouve l'ambiance vraiment très festive, très joyeuse et puis très chaleureuse. On est là pour ça, pour faire les shows.
Je suis aux anges. S'exclame Moussa Diallo, promoteur du festival. Selon ses dires, l'événement a été une réussite.
Cette année, c'est encore une sélection très costaud parce que nous voulons des artistes vraiment qui sont assez professionnels pour les présenter à des promoteurs à l'extérieur. Souvent aussi des artistes en herbe. La programmation est super cette année. Je découvre aussi des artistes que je connaissais pas très bien. Et le niveau, je suis heureux de voir que les artistes maliens progressent énormément au niveau que ce soit les chanteuses, les chanteurs, les instrumentalistes. Et c'est la relève de Oumou Sangaré, de Salif Keita qui est là.
Plusieurs artistes ont émerveillé la soirée, notamment Mamou Sidibé, Nape Sadio et Amadou et Mariam. Vivement la 12e édition du festival Spot on Mali.
Merci Fatoumata Kodjo qui a assisté au festival Spot on Mali pour nous. Et maintenant, d'une rubrique à une autre rubrique, nous arrivons à notre proverbe de la semaine. Notre citation dit ceci, ce n'est pas le bonheur qui attire le sourire, mais c'est le sourire qui attire le bonheur. Qu'en pensent les populations? Nous avons baladé notre micro dans la capitale. Écoutons quelques réactions recueillies. Bonsoir.
Bonsoir.
Il y a un proverbe de chez nous qui dit « Ce n'est pas le bonheur qui attire le sourire, mais c'est le sourire qui attire le bonheur. » Que comprenez-vous par ce proverbe?
Le sourire, ça ne coûte rien à celui qui le donne, mais ça peut rendre une personne heureuse. Parce que le sourire, on peut le donner, même ayant les plus gros problèmes du monde. À partir de là, on peut dire que le sourire peut attirer le bonheur.
Il faut savoir que la richesse, le bonheur, c'est dans les interactions. Pour avoir la richesse, pour réussir, c'est forcément à travers les interactions. Autrement dit, de façon simple, c'est dans la main des autres qu'on peut avoir le bonheur, qu'on peut avoir le succès.
Il ne faudrait pas attendre son bonheur avant de commencer à dégager du positif et à rire. Parce que le sourire, il est contagieux et il crée le bonheur. Et forcément, on n'a pas besoin du bonheur sur le plan financier, de tout ce qu'on veut, en tant que satisfaction humaine pour être heureux, pour sourire. C'est vraiment bien pensé.
C'est quand tu souris, le bonheur vient naturellement vers toi et toutes les portes du bonheur s'ouvrent pour toi.
Le bonheur, ça doit englober le tout.
parce que quelqu'un qui est dans le bonheur, qui vit dans le bonheur, donc ça montre qu'il est heureux. Donc, il ne manque de rien.
C'est le bonheur pour moi qui attire le sourire. On sourit sans même le savoir, sans rendre compte. Donc, être heureux ne veut pas forcément dire rire.
Ainsi prend fin cette émission qui vous a été présentée par Juliette Koulibaly. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure et sur la même fréquence. Vous pouvez réécouter cette production à tout moment sur notre site web www.studiotamani.org. À Studio Tamani, la bonne information est également une manière d'aider la population. Merci donc pour la fidélité. En conclusion, vous l'aurez compris que des personnes déplacées internes œuvrent pour se prendre en charge elles-mêmes. Pour ce faire, elles s'investissent dans des activités génératrices de revenus. Des organisations humanitaires offrent des formations aux PDI en ce sens. Ces assistances se font pour le bonheur des bénéficiaires, mais pour une autonomisation efficace de ces personnes déplacées internes, notre invité aussi préconise une sensibilisation pour un changement de mentalité, car le soutien des organisations humanitaires est limité et les déplacés internes ne doivent pas toujours attendre que de l'assistance sociale, mais ils doivent s'atteler à prendre en main leur vie. Ne décrochez surtout pas, car tout à l'heure, vous aurez la version en Bamanankan.